D. Chemin vers une réconciliation. 76. Pour rendre tout son sens et toute sa force à la notion de loi naturelle comme fondement d'une éthique universelle, il importe de promouvoir un devoir de sagesse, d'ordre proprement métaphysique, capable d'embrasser simultanément Dieu, le cosmos et la personne humaine, pour les réconcilier dans l'unité analogique de l'être grâce à l'idée de création comme participation. 77. Il est tout d'abord essentiel de développer une conception non concurrentielle de l'articulation entre la causalité divine et l'activité libre du sujet. Le sujet humain s'accomplit lui-même en s'insérant librement dans l'action providentielle de Dieu et non pas en s'y opposant. Il lui revient de découvrir par sa raison, puis d'assumer et de conduire librement à leur accomplissement, les dynamismes profonds qui définissent sa nature. En effet, la nature humaine se définit par tout un ensemble de dynamismes, de tendances, d'orientations, à l'intérieur desquelles surgit la liberté. La liberté suppose en effet que la volonté humaine soit mise sous tension par le désir naturel du bien et de la fin dernière. Le libre arbitre s'exerce alors dans le choix des objets finis qui permettent d'atteindre cette fin. Par rapport à ces biens, qui exercent sur elle un attrait qui n'est pas déterminant, la personne garde la maîtrise de son choix en raison de son ouverture congénitale sur le bien absolu. La liberté n'est donc pas un absolu autocréateur de lui-même, mais une propriété éminente de tout sujet humain. 78. Une philosophie de la nature qui prend acte de la profondeur intelligible du monde sensible, et surtout une métaphysique de la création, permettent ensuite de surmonter la tentation dualiste et gnostique d'abandonner la nature à l'insignifiance morale. De ce point de vue, il importe de dépasser le regard réducteur que la culture technique dominante conduit à porter sur la nature, afin de redécouvrir le message moral dont elle est porteuse comme œuvre du Logos. 79. Toutefois, la réhabilitation de la nature et de la corporéité en éthique ne saurait équivaloir à un quelconque physicisme. En effet, certaines présentations modernes de la loi naturelle ont gravement méconnu la nécessaire intégration des inclinations naturelles dans l'unité de la personne. Négligeant de considérer l'unité de la personne humaine, elles absolutisaient les inclinations naturelles des diverses parties de la nature humaine, en les juxtaposant sans les hiérarchiser et en omettant de les intégrer dans l'unité du projet personnel global du sujet. Or, explique Jean-Paul II, les inclinations naturelles ne prennent une qualité morale qu'en tant qu'elles se rapportent à la personne humaine et à sa réalisation authentique. Il importe donc aujourd'hui de tenir simultanément deux choses. D'une part, le sujet humain n'est pas un assemblage ou une juxtaposition d'inclinations naturelles diverses et autonomes, mais un tout substantiel et personnel qui a vocation à répondre à l'amour de Dieu et à s'unifier par l'orientation consentie vers une fin dernière, qui hiérarchise les biens matériels partiels manifestés par les diverses tendances naturelles. Cette unification des inclinations naturelles en fonction des fins supérieures de l'esprit, c'est-à-dire cette humanisation des dynamismes inscrits dans la nature humaine, ne représente d'aucune manière une violence qui leur serait faite. Au contraire, elle est l'accomplissement d'une promesse déjà inscrite en eux. Par exemple, la haute valeur spirituelle que représente le don de soi dans l'amour mutuel des époux est déjà inscrite dans la nature même du corps sexué, qui trouve dans cet accomplissement spirituel sa raison d'être ultime. D'autre part, dans ce tout organique, chaque partie garde une signification propre et irréductible qui doit être prise en compte par la raison dans l'élaboration du projet global de la personne. La doctrine de la loi morale, naturelle, doit donc tenir en même temps le rôle central de la raison dans la mise en place d'un projet de vie proprement humain, et la consistance et la signification propre des dynamismes naturels pré-rationnels. 80. La signification morale des dynamismes naturels pré-rationnels apparaît en pleine lumière dans l'enseignement sur les péchés contre nature. Certes, tout péché est contre nature, pour autant qu'il s'oppose à la droite raison et entrave le développement authentique de la personne humaine. Toutefois, certains comportements sont qualifiés d'une manière spéciale de péché contre nature, dans la mesure où ils contredisent plus directement le sens objectif des dynamismes naturels que la personne doit assumer dans l'unité de sa vie morale. Ainsi, le suicide délibéré et choisi va-t-il contre l'inclination naturelle à conserver et à faire fructifier son existence ? Ainsi, certaines pratiques sexuelles s'opposent-elles directement aux finalités reproductrices inscrites dans le corps sexué de l'homme ? Par le fait même, elles contredisent aussi les valeurs interpersonnelles que doit promouvoir une vie sexuelle responsable et pleinement humaine. 81. Le risque d'absolutiser la nature, réduite à sa pure composante physique ou biologique, et de négliger sa vocation intrinsèque à être intégrée dans un projet spirituel, menace aujourd'hui certaines tendances radicales du mouvement écologique. L'exploitation irresponsable de la nature par des agents humains qui ne cherchent que le profit économique et les dangers qu'elle fait peser sur la biosphère interpellent à juste titre les consciences. Toutefois, l'écologie profonde, deep écologie, représente une réaction excessive. Elle prône une égalité supposée des espèces vivantes au point de ne plus reconnaître aucun rôle particulier à l'homme, ce qui, paradoxalement, sape la responsabilité de l'homme vis-à-vis de la biosphère dont il fait partie. De façon encore plus radicale, certains en sont venus à considérer l'homme comme un virus destructeur qui porterait atteinte à l'intégrité de la nature, et ils lui refusent toute signification et toute valeur dans la biosphère. On en vient alors à une nouvelle sorte de totalitarisme qui exclut l'existence humaine dans sa spécificité et condamne le progrès humain légitime. 82. Il ne peut y avoir de réponse adéquate aux questions complexes de l'écologie que dans le cadre d'une compréhension plus profonde de la loi naturelle qui met en valeur le lien entre la personne humaine, la société, la culture et l'équilibre de la sphère biophysique dans laquelle s'incarne la personne humaine. Une écologie intégrale doit promouvoir ce qui est spécifiquement humain tout en valorisant le monde de la nature dans son intégrité physique et biologique. En effet, même si, comme être moral qui cherche la vérité et le bien ultime, l'homme transcende son environnement immédiat, il le fait en acceptant la mission spéciale de veiller sur le monde naturel et de vivre en harmonie avec lui, de défendre les valeurs vitales sans lesquelles ni la vie humaine ni la biosphère de cette planète ne peuvent se maintenir. Cette écologie intégrale interpelle chaque être humain et chaque communauté en vue d'une nouvelle responsabilité. Elle est inséparable d'une orientation politique globale respectueuse des exigences de la loi naturelle.